c'est parti. Si vous voulez bien, nous allons prier avant de commencer. Et notre Père, nous te remercions parce que nous allons pouvoir ouvrir ta parole et puis essayer de comprendre ce que tu veux nous dire par elle. Et dirige-moi, dirige-nous chacun dans notre attention et que nous recevions ta parole dans un cœur honnête et bon, s'il te plaît, pour qu'elle puisse y porter le fruit que tu veux l'avoir porté. Nous te remettons aussi nos frères et sœurs qui ne sont pas là, que tu les bénisses, chacun dans leurs circonstances. Nous avons évoqué ceux qui sont malades, ceux qui sont retenus, et nous te prions pour chacun. Et merci de nous permettre d'être ensemble comme nous avons commencé ce matin par le dire. Amen.
Amen.
Merci Jean-Philippe. Alors je vais demander à Anne et à Anne-Marie de venir avec moi pour un petit dialogue ou tout trilogue introductif.
Merci.
Alors nous sommes un dimanche après-midi en famille et discussion sur la parole. Et pour démontrer le bien fondé de mon point de vue, je viens de citer un verset du Deutéronome. Si j'ai cité ce verset, c'est bien que Dieu nous a donné sa parole pour notre instruction. On peut donc bien appliquer ce verset à notre situation.
Mais pas du tout. Les lois de l'Ancien Testament ont eu leur fin en Jésus. Tu connais bien ce verset. Christ est la fin de la loi. Alors, comment peux-tu t'appuyer sur ces lois pour justifier ton avis ?
Permettez-moi de rectifier un point. C'est la loi cérémonielle. Avec les sacrifices qui s'est accompli en Christ, les lois sociales concernaient Israël. En revanche, la loi morale reste toujours valable pour nous, car comme Dieu, elle est permanente et s'applique à tous les hommes.
J'ai déjà entendu cette distinction, mais je ne la trouve pas très utile. Si vous lisez le Pentateuque, il est souvent difficile de classer les lois dans l'une de ces catégories. Qu'est-ce que vous appelez la loi morale ?
Ben, les 10 commandements, par exemple.
Mais il n'y a pas que les 10 commandements. Il ne parle pas de l'aide que l'on doit apporter aux pauvres, par exemple. Et pourtant, c'est bien une exigence morale. Non. Toute la loi est importante.
Et pourquoi ne retenir que certaines lois dites morales ? Vous connaissez le verset de Jacques. Celui qui gardera toute la loi et qui péchera sur un seul point sera coupable sur tous. On ne peut pas se contenter de trier certains versets qui nous concerneraient et d'autres qu'on jugerait bons seulement pour Israël. C'est tout ou rien. Et comme chrétiens, notre justice ne vient pas de la loi. Nous ne devons pas nous mettre sous un joug légaliste, donc c'est rien.
Ah non. Pardon. C'est toute la loi, au contraire, qu'il faut garder. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et en plus, vous savez que Paul cite une fois un verset curieux à propos des bœufs pour justifier vis-à-vis des Corinthiens son droit à être soutenu financièrement. Et Paul dit qu'il n'est pas sans loi.
Oui, mais il dit aussi qu'il n'est pas sous la loi.
Bon, pour réconcilier vos deux points de vue, je ne vois qu'une solution. Cherchez les principes moraux sur lesquels la loi s'appuie, c'est-à-dire la loi morale intemporelle.
Ah, je vois un grand danger à cette approche. On en vient rapidement à rejeter l'inspiration verbale de l'Écriture et à dire que la Bible contient la parole de Dieu. Pourtant, regarde combien de fois le Seigneur et les apôtres citent l'Ancien Testament littéralement, en s'appuyant sur les mots eux-mêmes pour justifier leur doctrine.
D'accord avec C pour dire que les principes moraux de Dieu sont intemporels, mais je ne pense pas qu'on les trouve dans la loi. La loi est faible. Par exemple, elle autorise le divorce alors que Dieu le hait et que le Seigneur le condamne. La loi n'est qu'une ombre.
Ah non, la loi n'est pas faible. Elle est juste et sainte et bonne. C'est l'homme qui est faible et incapable de l'accomplir. L'outil est bon, c'est le matériau qui est mauvais.
C'est bien pour ça que la loi n'est pas pour le chrétien. Comme le dit Paul à Timothée, elle est pour les méchants, les impies, les pécheurs, etc.
Bon, en fait, il suffit de montrer de l'amour, car l'amour, c'est le résumé de la loi. Les deux plus grands commandements, selon le Seigneur, ne sont-ils pas « aime Dieu » et « aime ton prochain » ?
Ouais, ça encore, c'est bien une tendance actuelle. Tout justifié avec l'amour. Et c'est comme ça qu'on change la grâce de Dieu en dissolution. Celui qui aime Dieu doit d'abord garder ses commandements.
Oui, mais ce ne sont pas les commandements de la loi. Il s'agit d'un commandement nouveau. Avec la venue de Jésus sur la terre, la loi et les prophètes ont pris fin. Il a introduit quelque chose de tout nouveau.
Et vous, vous croyez maintenant que ce qui était une abomination pour l'Éternel ne l'est plus pour notre Père maintenant ?
On ne peut pas dire ça, bien sûr. Mais il faut sortir la loi de son contexte juif et sélectionner ce qui nous concerne encore.
Vous savez comme moi que certains sélectionneront tel verset et d'autres tels autres. Ou on n'en sort pas. Non, il faut reconnaître que nous sommes dans une nouvelle dispensation.
Alors vous n'allez plus lire du tout l'Ancien Testament ?
J'ai jamais dit ça.
Merci beaucoup. Voilà. Après cette petite entrée en matière, nous allons essayer de clarifier un petit peu, mais vous voyez que dans les points de vue d'Anne-Marie, d'Anne et le mien, il y avait de bons arguments de part et d'autre. Hein. Donc, comment faire avec toute cette matière et comment la mettre ensemble ? C'est ce que nous allons essayer de faire. D'abord, donc, quelques mots d'introduction à cet échange entre trois amis. Et puis ensuite, nous regarderons la loi dans l'Ancien dans le Nouveau Testament, avant de voir la loi de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau et de donner quelques mots de conclusion. Alors la loi, c'est un mot à connotation aujourd'hui très négative. Si on vous parle de la loi, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit un marteau, on voit un code de loi, on voit des gens qui sont sévères. Quand on parle de la loi, c'est pas aujourd'hui en France, en 2020, un terme qui produit spontanément le sourire, l'enthousiasme, etc. Il y a peut-être des juristes invétérés dans la salle, je ne sais pas, mais c'est plutôt interdiction, ceci, cela, le reste, etc. Et puis, il faut bien voir que nous sommes 50 ans après des enfants de mai 68. Hein, il est interdit d'interdire. Donc, la loi est ce qui contrevient à notre liberté. C'est vraiment ça que beaucoup ont en tête, que si il y a la loi, on ne peut pas faire ce qu'on veut alors qu'on aimerait bien finalement faire ce qu'on veut. Ce qui est très surprenant, c'est que quand on en vient dans le texte biblique, ce n'est apparemment pas du tout l'opinion de, par exemple, du psalmiste. Combien j'aime ta loi, tout le jour je la médite, nous dit le psaume 119. Et au psaume 19, David dit, les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes, elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui coule des rayons. Donc apparemment, au temps de l'ancienne alliance, il y avait des personnes qui se raffolaient de la loi, qui trouvaient leur bonheur et leur plaisir. Alors que pour nous, ben, finalement, c'est soit au mieux aride, soit au pire liberticide. Donc, que faire par rapport à cette loi ? Est-ce que nous arriverons à l'aimer vraiment ? Alors, tout d'abord, il convient de clarifier les sens du mot « loi » dans le Nouveau Testament. Un premier sens que nous trouvons, par exemple, en Romains 7, verset 23, me semble-t-il, c'est que la loi, c'est un principe naturel, généralement vérifié par l'expérience, annonçant une corrélation entre deux éléments, la loi de la gravitation, avec la pomme de notre ami Newton. Donc, fait tomber une pomme, ben, elle va du haut vers le bas, est attirée irrémédiablement par le sol. Elle ne monte pas toute seule. Deuxième sens que nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament, la loi comme l'expression d'une volonté mise en application par une autorité compétente sous menace de sanctions. Paul parle dans le même chapitre 7 de l'Épître aux Romains de la loi romaine. La femme est soumise à son mari tant qu'elle vit, comme le dit aussi la loi. Et il s'agit là de la loi romaine en vigueur à l'époque. Un troisième sens que nous trouvons au terme « loi », ce sont les exigences morales imposées à l'homme par sa conscience. Dans la même épître aux Romains, Paul en parle au chapitre 2 quand il parle des païens qui, bien que n'ayant pas la loi, sous-entendu la loi de Moïse, ont quand même cette loi qui est inscrite en eux, cette loi de la conscience. Là, vous voyez Caïn fuyant devant Dieu, l'œil était dans la tombe, et regardez Caïn, magnifique poème de la légende des siècles, de Victor Hugo. Donc, vous avez une illustration ici. Donc, ce sont ces exigences morales que l'homme, consciemment ou pas, reconnaît comme étant quelque chose qui s'impose à lui. Un quatrième sens, donc vous voyez, nous restreignons, c'est l'ensemble des règles et des instructions données par Dieu à Moïse lors du séjour du peuple au désert. C'est la loi de Moïse. Alors, avec l'article défini, c'est la loi de Moïse spécifiquement, et sans l'article défini, c'est la loi du Sinaï en sa qualité d'expression des principes divins universels. C'est pour cela qu'on va parler d'œuvre de loi. Galates 2, verset 16. Et donc, Moïse a reçu de la part de Dieu cette loi qu'il a transmise au peuple. Et la loi, et c'est le cinquième sens que nous trouvons, c'est aussi par métonymie l'ensemble des livres de l'Ancien Testament qui contiennent cette loi de Moïse. Parce que si on prend la loi de Moïse, stricto sensu, nous la trouvons dans quelques chapitres de l'Exode, nous la trouvons quasiment tout le Lévitique, quelques chapitres des Nombres et une grosse partie du Deutéronome. Mais ça ne fait que presque, ça fait 3,5 livres, quoi. Mais plus généralement, la Torah désignait l'ensemble du Pentateuque, donc de la Genèse jusqu'à Genèse 1 jusqu'à Deutéronome 34. Et c'est ainsi que Jésus le désigne en Luc 24, 44. Dans d'autres textes, nous avons la loi et les prophètes. Donc la loi, c'était semblait inclure aussi les psaumes, puisque Jésus, en Jean 10, 34 ou en Jean 15, 25, parle de la loi et des prophètes comme étant l'entièreté de la révélation donnée auparavant. Et puis parfois, c'est l'ensemble de l'Ancien Testament. Quand Paul dit, parlant de Corinthiens 14, de la loi, eh bien, il semble désigner l'ensemble de l'Écriture. Donc vous voyez, il y a ces cinq sens différents, loi de la gravitation, loi civile imposée à nous, loi de la conscience, loi de Moïse stricto sensu, ensemble de l'Ancien Testament. Et quels sont les liens entre ces cinq sens? Alors bien souvent, quand la parole de Dieu emploie le même mot, mais avec des nuances différentes, il convient à la fois de ne pas dissocier à l'excès, mais non plus de ne pas confondre à l'excès. Donc il faut avoir une approche nuancée entre les deux et distinguer sans dissocier. Alors tout d'abord, entre la première acception et la quatrième, on peut remarquer que l'auteur de la nature, notre créateur, notre grand Dieu, est également le donateur de la loi. Et c'est très intéressant de voir que le psaume 19 comporte trois strophes. L'une concerne la création, la deuxième concerne la loi et la troisième concerne la conscience. Donc, pour montrer l'unité qui existe entre ces différentes notions. Et puis, quand on prend un verset donné, il est parfois malaisé de savoir quelle définition mettre derrière l'emploi de loi par tel écrivain biblique dans tel texte précis. Est-ce que c'est la loi de Moïse stricto sensu? Est-ce que c'est la loi au sens de principe général? Parfois, il n'est pas si évident de trancher entre les différents sens. En conclusion, nous pouvons dire que les auteurs du Nouveau Testament ont conscience d'un vaste concept de loi divine, dont les définitions plus restreintes sont issues et tirent leur application. Donc, fondamentalement, nous avons la nature de Dieu, la nature éternelle de Dieu qui se traduit dans la loi morale de Dieu. C'est la façon de se comporter qui est en cohérence avec ce qu'est Dieu lui-même. Et ça, c'est éternel, intemporel. Et ça se traduit dans le temps, par ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme qui correspond à sa nature d'être créé à son image, donc la loi de la conscience, qui ensuite trouve sa traduction très concrète dans l'homme, cette fois-ci après la chute, dans la loi du Sinaï. Et donc il y a une cohérence, me semble-t-il, d'ensemble entre ces différentes notions. Et pour en prendre un exemple, nous pouvons revenir sur ce que Paul cite en Éphésiens 6, par rapport à l'obéissance des enfants vis-à-vis de leurs parents. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. » Vous voyez donc que ici, Paul donne une instruction d'obéissance des enfants par rapport aux parents, qu'il base sur la loi, donc le premier commandement avec promesse, qui est le cinquième commandement du Décalogue, et afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre, parce que si les enfants obéissent à leurs parents, en général, ils courent moins de risques d'avoir des accidents ou de faire des bêtises qui pourraient réduire leur temps de vie terrestre, parce que ça correspond à la loi en vigueur dans la création. Une fois cet élément clarifié, nous passons à la deuxième question. Alors, j'ai oublié de vous dire que nous allons essayer de débroussailler le sujet en voyant sept questions successives dans cette première partie, la loi dans le Nouveau Testament. Donc là, nous avons essayé, dans la première question, de voir quels sont les différents sens du mot loi dans le Nouveau Testament. Et la deuxième question que nous pouvons nous poser, c'est peut-on distinguer plusieurs types de lois, en particulier dans la loi de Moïse, puisque nous allons beaucoup nous préoccuper par rapport à tout cet ensemble de lois, de la loi de Moïse, puisque c'est bien souvent à cette loi-là que la majorité des textes du Nouveau Testament font référence. Quand il est question que dit la loi, c'est sous-entendu, bah, c'est la loi de Moïse. La distinction classique que nous avons par rapport à ces types de lois que nous trouvons dans la loi de Moïse, c'est la loi morale. Qu'est-ce que c'est que la loi morale ? C'est un principe édicté qui est valable en tout temps et en tout lieu. Par exemple, tu ne tueras pas. Exode 20. On distingue ensuite la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, elle est liée au culte et à ce qui était fait dans le tabernacle, puis ensuite dans le temple d'Israël. Tu prendras un agneau, tu prendras de la fine fleur de farine, etc., etc. Et puis, troisième grande catégorie, la loi civile. Donc c'est la loi qui était en vigueur en Israël, Israël vu comme le peuple de Dieu sur lequel Dieu régnait, théocratie directe, typiquement, pour faire plaisir à Jean-Philippe, je cite l'année du Jubilé. Donc vous avez, je dis ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure et qu'il disait qu'il aimait bien cette régulation qui au demeurant est sans doute excellente. Donc on avait l'habitude de distinguer la loi morale, la loi cérémonielle et la loi civile en disant la loi morale elle est toujours en vigueur puisqu'elle est valable partout en tout temps. La loi cérémonielle, bah, du fait qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem, elle est tombée d'elle-même. Et la loi civile, bah, on n'est plus en théocratie en Israël, donc là aussi nous n'avons plus à la respecter. Alors, ça, c'est une distinction en trois parties que vous trouvez assez fréquemment, sauf qu'elle a ses limites. Et une limite principale, c'est que le mot ne se trouve qu'au singulier dans le Nouveau Testament. À une exception près, la citation de Jérémie 31 qui est faite en Hébreux 8, en mettant mes lois dans leur cœur, je les mettrai aussi dans leurs entendements. Donc, s'il y avait plusieurs lois ou plusieurs types de lois, peut-être les auteurs du Nouveau Testament auraient-ils fait le distinguo, et ils ne le font pas. Donc il n'y a pas un code qui renfermerait plusieurs lois, mais une seule loi qui renferme plusieurs ordonnances. Et au contraire, le Nouveau Testament est très clair en disant que celui qui gardera toute la loi et faillira en un seul point est coupable sur tous. Celui qui a dit « tu ne commettras pas adultère » a dit aussi « tu ne tueras pas ». Or, si tu ne commets pas adultère, mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Le raisonnement de Jacques est imparable. Et vous savez, c'est comme quand vous avez un verre d'eau claire, vous mettez une goutte d'encre, et là, la photo a été prise juste au début, mais le verre va devenir tout bleu. Tout bleu, parce que ça suffit, être coupable sur un point suffit d'être coupable sur tous. Donc, il me semble impossible de trier, de suivre une partie de la loi plus ou moins arbitrairement sélectionnée, parce qu'on serait livré à notre propre subjectivité. Et même quand on retient cette distinction loi morale, loi cérémonielle, loi civile, on voit bien qu'il est des textes qui mixent les trois et que l'affectation précise de tel verset de l'Exode, de Lévitique, de Deutéronome à une des trois catégories n'est pas toujours évidente. Donc, il me semble difficile de distinguer une loi morale indépendamment du reste. Troisième question, la loi est-elle bonne ou mauvaise ? Alors, le Nouveau Testament nous donne une vision positive de la loi. La loi est sainte, juste, bonne. Paul est péremptoire sur ce point-là. La loi est spirituelle. La loi est une loi d'amour qui est basée sur l'amour. Et aussi, sous la même plume de Paul, nous trouvons des versets qui sont, eux, beaucoup plus négatifs. La loi produit la colère, la loi met sous la malédiction de Dieu, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « la loi n'amène rien à la perfection ». Donc on a cette approche, une loi qui est vue à la fois sous un jour positif et sous un jour négatif. Et cela m'amène à la quatrième question, Jésus s'est-il soumis à la loi ? Puisque la novation du Nouveau Testament, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre, qui nous rapporte la personne même de Dieu fait homme, et alors quel est le lien entre Jésus et la loi ? Alors Jésus est né sous la loi, nous dit Galates 4, verset 4. Et ici, vous avez une très belle fresque de Frangelico. Et je ne sais pas si vous remarquez ici, dans le petit panier que Saint Joseph porte, eh bien, il y a deux tourterelles. Parce que Jésus était présenté au temple par ses parents. Je vais le représenter là, sans doute à un âge plus avancé que la réalité historique. Et ils ont apporté le sacrifice qui était prévu par la loi, nous dit l'évangile selon Luc, de tourterelles parce qu'ils étaient pauvres. Et donc Jésus s'est bien soumis à la loi dès son plus jeune âge. Et c'est très frappant de lire les premiers chapitres de l'évangile selon Luc, les deux premiers chapitres, et de voir à quel point, et je vous invite à le souligner dans vos Bibles, le terme de loi, selon la loi, est indiqué. Comme si l'évangéliste voulait bien mettre l'accent sur le fait que Jésus s'est inscrit dans ce qui existait à l'époque, dans la dispensation dans laquelle il est né et qui était sous la loi. Alors Jésus n'a pas aboli la loi, mais l'a portée à son achèvement. Le discours, le sermon sur la montagne, commence ou presque après les béatitudes en disant « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Alors on pourrait passer facilement une demi-heure à discuter de ce terme pour accomplir. Parce que c'est vraiment une clé de compréhension de la loi. Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, pour amener à son achèvement, pour amener à sa plénitude. Donc cet accomplissement, c'est parce que la loi, en fait, pointait ultimement vers lui. Que ce soit la loi morale, que ce soit la loi cérémonielle, que ce soit la loi civile, eh bien, elle trouve en Jésus-Christ lui-même, dans sa personne, son accomplissement dans le sens le plus fort du terme. Et Jésus s'est soumis à la loi dans le sens où le psaume 40 le dit, « Voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Psaume 40, verset 8, cité en Hébreux, chapitre 10, comme étant directement applicable à Jésus-Christ. Donc il y avait cette intériorisation de la loi dans la personne même de Jésus. Mais cependant, Jésus n'a pas hésité à transgresser ou à laisser transgresser des commandements de la loi. Rappelons-nous les multiples controverses entre les pharisiens et lui, en particulier sur l'observance du sabbat. Ça aussi, c'est très frappant. Quand on lit le récit de la vie de Jésus, on a l'impression qu'un tiers du temps, ça se passe en des disputes le jour du sabbat. Et avec respect, on a presque l'impression aussi que Jésus prenait un malin plaisir à guérir surtout le jour du sabbat. Alors peut-être c'est parce que c'était les guérisons du jour du sabbat qui créaient les polémiques que les évangélistes ont retenues dans leur texte, mais enfin, on voit bien qu'il y avait quand même cette prégnance, et ne serait-ce que parce que les disciples avaient ramassé des épis un jour du sabbat, et bien ça fait tout un problème. Et puis, on voit aussi la façon dont Jésus, quelques versets après celui que j'ai cité sur la planche précédente, où il est venu accomplir la loi, se distancie un petit peu de la loi dans la suite du sermon sur la montagne, avec « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Et la conclusion du sermon sur la montagne, c'est que les foules étaient étonnés parce qu'il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens qui réinterprétaient la loi. Et Jésus, on voit, réinterprète la loi à sa sauce, hein, mais en lui donnant une dimension beaucoup plus importante. Donc Jésus, à la fois, s'est soumis à la loi, mais à la fois aussi, s'est distancié un petit peu en introduisant une nouvelle ère qui était basée non plus sur des textes, sur la lettre, mais sur sa personne. Et en même temps, il peut dire qu'il n'y aura pas un trait de la loi qui ne va pas être accompli, et en même temps, il peut la réinterpréter. Vous voyez, le paradoxe dans lequel il nous met, mais qui ne trouve sa résolution que dans sa personne elle-même, vers laquelle l'Ancien Testament pointe. Cinquième question, à quoi sert la loi pour l'incrédule ? Eh bien, elle sert vraiment à quelque chose. Parce que la loi sert à lui démontrer qu'il est pécheur personnellement. La loi le concerne directement. La loi n'est pas pour le juste, Paul est clair, mais pour les iniques, les insubordonnés, les impies, les pécheurs, les gens sans piété, les profanes, les batteurs de pères et les batteurs de pères, les homicides, etc. Alors, on peut trouver effectivement beaucoup de gens qui n'ont jamais battu leur père ou leur mère, heureusement. Mais enfin, tout le monde va tomber sous le coup de la loi parce que la loi va faire connaître le péché sous son aspect de transgression. Dieu donne une norme et on va la dépasser. On va aller au-delà par le péché et la connaissance, par la loi et la connaissance du péché. Je n'aurais pas connu le péché si ce n'avait été par la loi, car je n'aurais pas eu conscience de la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et la force de Paul, c'est qu'il prend le 10e commandement, celui qui, effectivement, a été transgressé par chacun de nous. Parce qu'il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'a pas, au moins une fois, un tout petit peu, convoité quelque chose. Sinon, vous êtes des pieds-fesses hypocrites. Alors, un jour, Jésus a rencontré quelqu'un qui pensait, j'allais dire naïvement, mais de bonne foi, avoir accompli la loi. Mais il y avait quand même un petit problème dans son esprit. « Bon maître, que faut-il que j'ai fait pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Un seul n'est bon, puis tu connais les commandements. » Puis il en cite quelques-uns. Jésus est plein de grâce, il ne lui cite pas le dernier, le 10e. « Tu ne convoiteras pas. » Mais il en cite un certain nombre, et l'autre répond « Avec tout aussi bonne foi, j'ai gardé ces choses dès ma jeunesse. » Ben oui, mais Jésus met l'accent, pof, sur le problème, parce que... La loi montre quelles sont les vraies exigences d'un Dieu saint qui est le péché. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus lui demande implicitement de mettre en pratique en distribuant ses biens aux pauvres. Et ça coince. Voilà. Donc la loi sert à l'incrédule. Et ça nous arrive tous les uns et les autres de rencontrer des gens qui disent « Vous savez, moi je n'ai rien fait de mal. Hein. Moi je suis un honnête gars. Bah, » Oui, mais... prendre peut-être quelques commandements, et ne serait-ce que le 10e, tu n'as jamais ni convoité ni la voiture de ton prochain, ni son iPhone, ni sa maison, ni que sais-je. Alors la loi sert et a montré qu'effectivement le péché, c'est une transgression par rapport à la norme que Dieu nous donne. Et collectivement, elle a aussi un autre intérêt, c'est qu'elle sert à limiter le mal. Et c'est très frappant de voir que, comme les anthropologues nous le disent, quelle que soit la civilisation, l'homme a conscience que pour vivre en société, il est nécessaire qu'il y ait certaines règles. Et les essais qui ont été tentés de vivre une vie collective en anarchie, hein, c'est-à-dire sans loi, se sont tous soldés par des échecs, ou par le totalitarisme de certains. Parce qu'on ne peut pas vivre ni Dieu ni maître, ça ne marche pas, sauf si on reste tout seul. Parce que dès qu'on est plusieurs, il est nécessaire qu'il y ait des lois pour régir les interactions entre les personnes. D'où ces lois, alors certaines, elles sont toutes imparfaites, hein, certaines sont parfois éloignées de la pensée profonde de Dieu, mais toutes ces lois dans toutes les civilisations. Il y a cette conscience universelle d'une loi morale transcendante et de sa nécessité. Et la loi de Moïse, finalement, n'en est qu'un cas particulier qui en est la plus pure expression. Donc il est nécessaire que collectivement, pour que nous puissions vivre en société, il y ait des lois qui régissent les comportements. Donc la loi sert pour l'incrédule, et à la fois personnellement et collectivement. Alors, est-ce qu'elle est utile pour justifier le chrétien ? Alors, attendez, là, je suppose que la question, elle vaut à peine la peine d'être posée, parce que nous sommes tous des héritiers de la Réforme, et nous répondons d'un seul cœur, non, elle n'est pas utile pour justifier le chrétien. La justice du croyant n'est pas basée sur la loi. Personne ne sera justifié devant Dieu par des œuvres de loi. La loi ne peut jamais rendre parfait à ceux qui s'approchent. Ça, nous en sommes profondément persuadés. L'œuvre de Christ met fin à l'exigence de la loi pour le croyant. Parce que finalement, cette loi, même si nous ne sommes pas juifs, enfin, je ne sais pas s'il y a des personnes d'origine juive ici, moi je ne le suis pas, mais néanmoins, même si je ne suis pas sous la loi de Moïse stricto sensu, la loi de Dieu, dont la loi de Moïse n'était qu'une concrétisation dans un moment donné de l'histoire, la loi de Dieu s'impose à moi. Et celle-là, je suis bien conscient, et la preuve historique en a été donnée dans le peuple d'Israël, et la démonstration personnelle, il n'est pas compliqué de la faire chacun pour soi, c'est qu'on n'arrive pas à la mettre en pratique. On n'arrive pas. Ça ne marche pas. Et donc, quelle délivrance nous avons dans l'œuvre de Jésus-Christ qui met fin à cette exigence de la loi. Ce qui était impossible à la loi en ce qu'elle était faible par la chair, ben oui, j'arrivais pas à l'accomplir. Dieu, c'est Dieu qui prend l'initiative, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Christ a conduit la loi de Moïse à son but pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. Je trouve que c'est plus compréhensible que Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant, qui est la façon d'Arby de dire de façon très synthétique. Christ a conduit la loi de Moïse à son but pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. Et Paul est très heureux de dire qu'il a... Alors, pourtant, Paul, c'est un spécialiste de la loi, un pharisien des pharisiens, etc. Il donne toutes ses barrettes, il les présente, et puis il dit, ben, finalement, maintenant, je suis heureux, parce que je suis trouvé en Christ, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, qui lui avait conduit à persécuter les chrétiens, mais celle qui est par la foi en Jésus-Christ, la justice qui est de Dieu, au moyen de la foi. Quel beau cri de victoire de Philippiens 3, verset 9. Donc, la loi n'est pas utile pour justifier le chrétien. Et ça, c'est vrai de la loi morale comme de la loi cérémonielle. Vous remarquerez que Paul ne fait aucun distinguo entre les deux. Il ne dit pas « j'ai été libéré de l'obligation d'offrir un agneau chaque fois que j'avais péché ». Il aurait pu dire ça, mais il ne dit pas ça. Il ne dit pas « j'ai été libéré de l'obligation de faire le jubilé tous les 49 ans ». Non, il dit cela. Vous avez, ce dont vous n'avez pas pu être justifié par la loi de Moïse dans son ensemble. Donc, on comprend bien que ce soit les différents comportements de la loi, eh bien, elle n'est pas utile pour justifier le chrétien. D'où ma septième et dernière question, la loi est-elle la base de la sanctification du chrétien? Et là, il est important de répondre aussi non. Pourquoi? Parce que parfois, comme on l'a dit, les protestants, finalement, ils reçoivent leur salut gratuitement, mais ils le remboursent à crédit toute leur vie. Eh bien non. Donc le croyant n'est plus sous la loi, elle est définitivement mise à mort pour lui, mais il est en Christ. D'où l'expression que nous trouvons fréquemment dans Galates et dans Romains, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. On a changé de régime, on a changé complètement de régime. Nous avons été déliés de la loi, nous avons été morts en ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Donc, en tant que croyant, je ne m'efforce plus ou pas de suivre la loi pour acquérir un mérite devant Dieu ou une faveur de la part de Dieu. Et la vie nouvelle du croyant en Christ est dirigée par l'Esprit Saint que Dieu fait habiter en lui et non par des commandements légaux. Ce qui dirige ma vie, c'est pas parce que Dieu me dit « tu dois faire ceci, cela, le reste », non, c'est parce que je suis conduit par l'Esprit. Et Paul dit « si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi ». Et c'est dans ce paragraphe-là que 5 versets après, il va parler du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, etc. Donc ce qui va produire ma sanctification, c'est l'action fondamentalement de l'esprit en moi. Donc pour résumer ma première partie, la loi dans le Nouveau Testament, il y a à la fois des facteurs de discontinuité, il y a un changement de dispensation, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Nous passons d'un peuple d'Israël qui était le peuple terrestre de Dieu à l'Église, le peuple céleste de Dieu, et nous remplaçons une loi écrite par une personne vivante. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Jean, dans son prologue, fait bien le contraste entre les deux, et nous passons de l'ombre à la réalité, selon ce que nous dit Hébreux 10, verset 1. Donc il y a des facteurs de discontinuité, mais il y a aussi des facteurs de continuité. Et c'est là la subtilité, c'est qu'il faut pondérer les deux. Parce que le salut, que ce soit avant la croix ou après la croix, a toujours été basé sur l'œuvre de Christ à la croix. Romains 3 nous dit que c'est le support des péchés précédents qui attendaient. Et Paul va, au chapitre 4 de Romains, prendre l'exemple d'Abraham et l'exemple de David pour dire qu'ils ont été sauvés par la foi. Donc, parce que par les œuvres de loi, aucune chair ne sera justifiée. Donc, il n'y a pas un Israélite qui a été sauvé par ce qu'il avait obéi à la loi, puisqu'il n'y a personne qui a pu obéir à la loi. Donc, c'est QFD. Donc, le salut est le même, quelles que soient les périodes, que ce soit sous la loi ou sous la grâce, il est toujours basé sur l'œuvre de Christ à la croix. Mais les facteurs de continuité, nous les trouvons dans le sens où les auteurs du Nouveau Testament ne sont pas allés jusqu'au point pour dire eh ben, vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce, donc oubliez complètement tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Au contraire, ils vont prendre plein de versets de la loi Et on sait que le Deutéronome, après les psaumes et Ésaïe, est le troisième livre le plus cité dans le Nouveau Testament des 39 livres de l'Ancien Testament. Donc c'est bien qu'il avait quelque chose encore à nous dire. Et nous avons la même base morale qui est la loi de Dieu dans ce que Dieu est lui-même, qu'il ne change pas, c'est l'éternel, c'est la loi de l'éternel. Et il y a cette continuité de l'amour puisque, comme le dit Romains 13, verset 10, « Aimer, c'est obéir parfaitement à la loi ». Donc, oublions cette idée que le Dieu de l'Ancien Testament, ce serait le Dieu vengeur de la loi et que le Dieu du Nouveau Testament, ce serait le Dieu plein d'amour de la grâce. C'est un résumé qui ne fait pas justice à la nature immuable du Dieu qui a à la fois donné la loi et qui a apporté la grâce par Jésus-Christ. Donc vous voyez, on a à la fois ces facteurs de discontinuité et ces facteurs de continuité. Et c'est ce qui rend ce sujet pas si facile que ça. Et c'est ce qui rend le trilogue que nous avons eu avec Anne et Anne-Marie parfois un débat un petit peu vif. Alors, après avoir essayé de répondre à ces sept questions, qu'allons-nous faire de la loi de l'Ancien Testament ? Eh bien, nous allons la relire, mais cette fois-ci à la lumière de ce que nous avons vu dans le Nouveau Testament. Et là, je vous propose deux principes de base que je ferai suivre de cinq exemples. Donc, les deux principes de base, c'est la contextualisation et la hiérarchisation. Et ensuite, nous verrons cinq exemples concrets. La contextualisation, c'est qu'il convient de replacer les commandements dans leur contexte. Dieu ne parle pas, dans la Bible en particulier, j'allais dire en l'air, bien sûr, il ne parle pas en l'air, mais il ne parle pas en dehors de tout contexte. Et les livres bibliques, les 66, ont été donnés dans un contexte donné. Et il est très important de replacer les éléments dans leur contexte pour comprendre d'abord ce qu'ils veulent nous dire. Dieu n'a pas donné sa loi comme étant un catalogue de principes moraux philosophiques qui seraient déconnectés de tout. Même quand il s'agit d'éléments très généraux, on les voit bien, ils sont tout de suite déclinés par des applications qui étaient directement compréhensibles pour les personnes qui vivaient à l'époque. Et donc certaines lois ne se comprennent qu'en regard du contexte historique. Vous avez cette fameuse loi, « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère ». Je crois que ça se trouve à trois reprises. Quand Dieu cite trois fois un texte, c'est que c'est quand même très important. Alors, mesdames, il n'y a aucun problème, c'est bientôt la saison du chevreau, hein. C'est au mois d'avril qu'on ne trouve pas souvent, hein, mais qu'il y a des chevreaux. Eh bien, vous pouvez faire une sauce au lait dans la même casserole, il n'y a pas de souci, pas besoin d'en avoir deux différentes comme les juifs orthodoxes. Et qu'est-ce que ça voulait dire ? Pourquoi ne fallait-il pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ? Ça n'a rien à voir avec les règles sur les recettes sur Marmiton. C'est tout simplement qu'il y avait des rites de fertilité et à l'époque, on se disait que pour que les troupeaux se développent bien, eh bien, on faisait cuire un chevreau avec le lait de sa mère. Et c'était un rite de fertilité cananéen de l'époque. Et donc, Dieu dit, vous arrêtez, ça ne marche pas comme ça, parce que vous êtes différents, vous ne dépendez pas de rites plus ou moins magiques ou superstitieux, vous dépendez de moi, je suis le Dieu qui vous nourrit. Et donc, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Et c'est comme cela qu'il faut le comprendre. Alors, bien entendu, ce genre de loi est éclairé par la connaissance que les archéologues, ceux qui déchiffrent les tablettes, etc., nous donnent de la culture de l'époque. Et bien souvent, certains textes qui nous semblaient fort obscurs s'éclairent quand nous comprenons quelle était la coutume de l'époque à laquelle cette loi faisait référence et qui avait rendu nécessaire telle interdiction ou tel commandement. Un autre point aussi très important par rapport à la contextualisation, c'est que Dieu, dans une mesure spéciale de sa grâce, a adapté ses lois à la culture de l'époque, se réservant pour plus tard dans le Nouveau Testament la pleine révélation de sa pensée. Beaucoup de personnes sont choquées en lisant la Bible de voir que la Bible semble recommander l'esclavage, le divorce, la polygamie. Ben oui, effectivement. Et Exode 21, c'est l'esclave hébreu, Deutéronome 24, c'est la lettre de divorce, il est question de la femme, quelles sont les lois qui s'appliquent si un homme a deux femmes, il devra un certain nombre de choses à chacune d'entre elles, etc. Alors Jésus dit bien aux pharisiens en Matthieu 19, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse a écrit cela. Donc on voit bien qu'il y avait une abodiation de la grâce dans la façon dont Dieu avait tourné les choses. Et il a adapté donc ses lois à la culture de l'époque. Il n'a pas dit arrêtez tout esclavage, arrêtez toute polygamie. Alors bien entendu, nous comprenons bien, en particulier dans la progression de la révélation, que la pensée profonde de Dieu n'était ni la polygamie, ni l'esclavage, ni le divorce. Mais c'était donné dans ce contexte-là. Et je suis persuadé que si Dieu, je fais un peu de la dystopie, mais si Dieu donnait de nouveau une loi de Moïse ou de Moïse bis dans le contexte actuel, eh bien il adapterait aussi à notre monde de 2020, parce que c'est une façon de montrer sa grâce. D'où l'importance pour nous de tirer des principes spirituels qui ne soient pas pollués par un littéralisme qui n'aurait plus sa place de ce que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament. Et c'est plus ou moins facile selon les cas. Donc pour le chevreau dans le lait de sa mère, ça va, c'est pas trop compliqué. Pour d'autres textes, c'est plus délicat. Mais il importe de voir quels sont les principes qui sont derrière. Et les exemples peut-être pourront nous aider un peu, me semble-t-il, à titre illustratif. Toujours dans la contextualisation, il est important de faire des applications légitimes, excusez le jeu de mots, de la loi. Alors, sauf bien entendu pour celles qui sont clairement reprises et interprétées dans le Nouveau Testament, type « Enfant, obéissez à vos parents, car c'est le premier commandement avec promesse, car tu honoreras ton père et ta mère ». Là, la transposition, elle est assez facile à faire. Mais je pense qu'il est nécessaire que nous ayons une grande sagesse et beaucoup d'humilité dans l'interprétation que nous en faisons. Et en particulier, je me permets d'insister sur le point suivant. L'Église, tel que je le comprends, c'est un mystère caché dans l'Ancien Testament. Texte d'Éphésiens 3, fin de Romains 16, me semble-t-il, sont clairs là-dessus. De ce fait, il me semble très délicat de se baser sur l'Ancien Testament et donc sur la loi, pour savoir comment nous devons nous conduire aujourd'hui dans l'Église, qui était un mystère dans l'Ancien Testament. Et je dois vous dire que j'ai vécu, alors peut-être pas dans un passé récent, mais dans un passé un peu plus lointain, un certain nombre de circonstances d'Église où il y avait des décisions qui étaient prises basées sur des textes de l'Ancien Testament, du Lévitique, etc. Et j'ai toujours été très mal à l'aise avec cette façon de faire, parce que je la trouve herméneutiquement non fondée. En même temps, ceux qui justifiaient leur action en prenant des textes de l'Ancien Testament étaient les premiers à dire que, et à être des tenants assez, parfois même jusqu'au boutiste, du dispensationalisme, pour dire que l'Église était nouvelle et qu'elle avait été créée à la Pentecôte, ce que je crois pour ma part. Donc vous voyez, il y a un petit peu d'incohérence entre les deux. Donc il est important de voir que c'est le Nouveau Testament, et en particulier les Épîtres, qui nous donnent la base de la doctrine chrétienne. L'Ancien Testament nous servant de référence et d'illustration, mais pas de principe de base. Quand même, d'un point de vue herméneutique, la progression de la révélation, c'est quand même quelque chose de très important, hein, de très important, et qui parfois a été un peu occulté. Néanmoins, n'allons pas dans l'extrême inverse, et de dire, ben, dans ces cas-là, je me contente d'étudier les Épîtres. Et s'il vous plaît, en réunion d'études à Aix, concentrez-vous sur Romains jusqu'à Jude. Non, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc c'est bien que si Paul écrit ça, qu'il y a de l'intérêt quand même à utiliser ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament. Donc premier point, la contextualisation. Deuxième point, la hiérarchisation. Cette hiérarchisation, elle est reconnue par les rabbins juifs. Vous savez qu'ils distinguaient 613 commandements, 248 positifs, 365 négatifs. Et ils distinguaient aussi les commandements forts des commandements légers. Bon, ça on pourrait dire, ben, les rabbins, ils disent un peu ce qu'ils veulent, mais est-ce que ça nous importe ? Ah ben, c'est que cette hiérarchisation, elle est aussi reconnue par le Seigneur Jésus. Ça, c'est très frappant. Quand on pose la question à Jésus, quels sont les deux premiers commandements de la loi ? Parce que ça, c'était un sport que les rabbins aimaient par-dessus tout, de classer les commandements les uns par rapport aux autres. Donc on pose la question à Jésus, on aurait pu s'attendre qu'il dise, mais non, attends, toute la parole a été donnée par Dieu, donc tous les commandements sont à mettre au même niveau. Pas du tout. Jésus ne se recule pas du tout. Mais quand on lui demande quels sont les deux premiers commandements de la loi, il répond tout de suite, ah ben, je vais vous le donner, tu aimeras ton Dieu comme de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements découle tout le reste. Donc on voit que Jésus est conscient de cette hiérarchisation, et il la soutient même. Et dans le chapitre d'après de l'Évangile selon Matthieu, quand dans ses malheurs qu'il est obligé d'annoncer aux scribes et aux pharisiens, il dit bien, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses aussi, ne pas laisser celles-là. Donc voyez combien les paroles du Seigneur sont d'un équilibre fantastique. Il dit, il fallait faire celle-ci et celle-là, donc... C'est pas qu'il y ait des textes qui soient à mettre de côté. La dîme de la menthe, de la nette et du cumin, ce n'était pas à négliger. Mais il fallait, de façon plus importante, faire le jugement, la miséricorde et la fidélité. Et c'est bien sur cet argument-là que Jésus, souvent, critique les pharisiens par rapport au jour du sabbat. Il dit, mais attendez, il était malade. Est-ce qu'il ne fallait pas le guérir plutôt que de respecter à la lettre votre histoire du sabbat? Donc vous voyez, c'est plus important de guérir quelqu'un de malade que de respecter la lettre du sabbat. Donc il y a eu bien une hiérarchisation. Et donc ça c'est aussi un point très important. Et comment discerner les points les plus importants dans la hiérarchisation? Eh bien, ça c'est pas si facile que ça. Alors, je vais faire un peu de pub pour Forma Bible. Christophe Argot et moi avons fait un module en début de cette année scolaire sur... la bibliologie et l'herméneutique, et nous avons consacré une séance justement à cette question de la hiérarchisation à travers toute la Bible. Donc là, trois points parmi bien d'autres que nous pourrions avancer, c'est que d'abord c'est sous la conduite de l'Esprit de Dieu qui a donné la loi, nous pouvons noter les répétitions et faire attention à l'emplacement des textes, puisque Dieu a agencé les textes de telle manière que bien souvent les points les plus importants sont situés à des endroits bien précis de sa parole et d'une macro-péricope. Donc la hiérarchisation, très importante. Et donc nous allons prendre cinq exemples successifs pour essayer d'appliquer ça. D'abord le sabbat. Alors historiquement, le sabbat c'était le signe de l'ancienne alliance et que Jésus a mis de côté en disant le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Luc 6, verset 5. Quant à Paul, il est très clair. Théologiquement, le sabbat n'est plus en vigueur. Et il dit aux Colossiens que « Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais aujourd'hui nous en sommes à la réalité qui est en Christ. » Ok, donc qu'est-ce qu'on fait quand on se rencontre avec des adventistes ou des gens qui prônent le respect du sabbat? Eh bien, on respecte ceux qui le respectent, mais... On ne les laisse pas nous imposer le sabbat. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Donc vous voyez, il y avait à la fois des gens qui trouvaient que c'était très bien de respecter le sabbat, et d'autres qui disaient, mais non, on est passé à autre chose. Paul est plutôt du côté de ceux qui disent, on est passé à autre chose, mais il dit, alors, respectons ceux qui sont encore là. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous donner... l'accomplissement. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Jésus, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il va nous donner l'accomplissement du sabbat et nous montrer que finalement, le sabbat, cette institution de l'Ancien Testament pointée vers une réalité spirituelle, nous entrons dans le repos de Dieu. Maintenant, nous qui avons cru. Et nous avons devant nous ce sabbat final céleste du repos éternel de Dieu. Et il y a toutes ces cinq étapes que nous trouvons, je ne vais pas les développer, dans Hébreux au chapitre 4, ces cinq étapes du sabbat que nous trouvons et qui nous présentent combien à partir de ce sabbat de repos de Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse, nous avons ce développement de ce thème du sabbat. Donc vous voyez, c'est très intéressant le sabbat parce que c'est un thème qui parcourt l'Ancien Testament et qui arrive jusqu'au Nouveau, et qui nous montre comment ces institutions de l'Ancien Testament eh bien, finalement trouvent leur accomplissement dans ce repos dans lequel nous entrons. Et c'est valable du sabbat comme pour bon nombre d'autres trajectoires, si je puis dire, qui trouvent leur accomplissement en Jésus dans le Nouveau Testament. Deuxième exemple, les lois alimentaires. Alors, historiquement, on voit qu'il y avait eu de nombreuses lois d'interdits alimentaires. Il y a tout un chapitre, Lévitique 11. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que Pierre a une vision un jour, avant d'aller chez Corneille, il voit un grand panier avec un grand drap avec plein d'animaux dedans et une voix d'un ange qui lui dit « Vas-y, coupe et mange ». Ah, il dit « Mais jamais, j'ai jamais mangé ça ». Eh bien, si, si, maintenant ça a été purifié. Et Pierre après comprend, une fois qu'il va chez Corneille, que « Ah ben oui, finalement ça veut dire que on peut se mélanger avec les non-juifs et qu'il n'y a plus besoin d'avoir cette distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur ». Voilà, donc ça c'est historiquement, on voit le développement, ça c'est relativement clair, mais quid aujourd'hui de ces lois alimentaires? Alors, il y a des textes qui semblent a priori contradictoires. Nous avons acte 15, où dans les stipulations que la lettre circulaire qui a été envoyée suite au concile de Jérusalem, nous avons ces éléments, il faut s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Et puis, nous avons aussi le texte de 1 Corinthiens 10, dans les Épîtres, quelques années plus tard. Hein, acte 15, on est en 49. 1 Corinthiens 10, on est finalement pas tellement longtemps, en 53 ou 54. Et Paul dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. » Et moi, j'ai toujours été frappé que là, Paul n'introduise pas du tout la question du sang, de ce qui est étouffé. Pourtant, on sait à l'époque qu'étaient vendues à la boucherie des choses qui avaient été étouffées et avec du sang. Pourquoi Paul ne répète pas, alors que Paul avait assisté 5 ans avant au concile de Jérusalem? Bon. Donc, et quant à 1 Timothée 4, versets 1 à 5, il dit que d'interdire certaines nourritures, c'est un enseignement de démon. Alors, en pratique, il y a des avis différents sur le boudin noir. Hein, donc, je respecte les avis différents sur le boudin noir. Il n'y en avait pas à midi, c'est bien. Ça m'aurait amusé qu'il y en ait. Mais bon, et c'est à respecter. Mais s'il vous plaît, s'il y a un frère qui mange du boudin noir, eh bien lui, il va peut-être pondérer 1 Corinthiens 10 et 1 Timothée 4 plus fort que acte 5, que acte 15 ou que Genèse 9. Eh bien voilà, c'est tout à fait du domaine où nous devons avoir cette liberté. Alors, quand j'étais enfant, on disait qu'il ne fallait pas manger du pigeon parce que c'est étouffé. Moi, j'ai toujours trouvé que le pigeon, c'était délicieux.
Et délice enfin, voilà. De pêcher, c'est bien connu.
Cool. Alors après, les applications hygiéniques à retenir, en cette période de coronavirus, vous savez que j'ai bien vérifié que la chauve-souris était interdite de consommation dans la liste de Lévitique 11. Et c'est sans doute par là que le Covid-19 est entré à Wuhan. Donc, ou par le pangolin, et je ne sais pas si le pangolin était tellement connu à l'époque, il n'est pas dans la liste, mais bon. Donc il y a quand même des applications hygiéniques à retenir, et là aussi, vous voyez, on peut transposer. Se dire que parmi les animaux qui sont interdits, il y en a quelques-uns qui sont interdits parce qu'il y a des raisons... Et il y a même quelqu'un qui a fait une thèse sur ce sujet pour démontrer que les caractéristiques des animaux impurs étaient finalement moins bien adaptées à la digestion humaine que les animaux purs. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais enfin, je vous le laisse là. Et puis, il y a des applications morales possibles. Moi, j'ai entendu toute ma jeunesse, les poissons qui avaient des nageoires et des écailles, ça, je suis sûr que ça fait tilt dans l'esprit des plus âgés d'entre nous, qui savaient remonter le courant. Sois un poisson vivant. Et vous voyez, c'est encore aujourd'hui. Donc, voilà. Vous voyez comment on peut appliquer ces lois. Troisième exemple, un peu chaud aussi, lui aussi, parfois, dans certaines églises, pas tellement chez nous, parce qu'on n'aime pas parler argent. On est en France, hein. Mais c'est la dîme. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que historiquement, le pourcentage est difficile à définir précisément. En fait, la dîme, si vous calculez bien, c'est 23,33%. Je vous laisse trouver les textes de l'Ancien Testament pour faire le calcul. Mais, et que ça correspond beaucoup plus dans une théocratie telle que l'était Israël, à l'impôt sur le revenu ou la TVA ou ce que vous voulez, qu'à la dîme de don. Parce que, en fait... ce que l'on constate dans l'Ancien Testament, c'est que si quelqu'un avait à cœur de donner pour, eh bien, il donnait généreusement, il donnait de cœur et relisait en particulier les chapitres 35 à 39 de l'Exode, qui semble être une répétition fastidieuse des stipulations du tabernacle qui nous ont été déjà données quelques chapitres auparavant, et vous verrez que son cœur y porta, ils donnèrent, et puis ils apportèrent, et puis il y en avait trop. Il n'y a pas une seule mention de la dîme. Pourquoi ? Parce que la dîme, c'est beaucoup plus l'IRPP que finalement la collecte. Donc là aussi, je vous laisse réfléchir à ce sujet. Théologiquement, vous remarquerez que la dîme, il n'en est jamais question dans les épîtres. Non. Que chacun amasse, mettre de côté selon qu'il a amassé, 1 Corinthiens chapitre 16, etc. Alors pratiquement, le principe de générosité est à retenir et à développer encore plus sous la grâce que sous la loi. Et nous avons ce beau texte de 1 Timothée 6, versets 17 à 19, qui me parle personnellement, tant que riche du présent siècle, au moins par rapport à d'autres. Voilà. Quatrième exemple, le salaire de l'ouvrier. Alors, historiquement, on a une ordonnance curieuse de la loi. « Tu n'emmuselleras pas le bœuf pendant qu'il poule le grain » de Deutéronome 25, verset 4. Quand on la lit ainsi, on a l'impression, bah oui, que finalement, le Dieu qui a créé les animaux dit qu'il faut être gentil avec les animaux. C'est normal. Mais Paul, alors, quand il reprend ce texte en 1 Corinthiens 9, et tenez bien, regardez bien comment il tourne les choses, car dans la loi de Moïse, il est écrit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu s'occupe-t-il des bœufs ou parle-t-il entièrement pour nous ?» Ben non, il s'occupe des bœufs. Hein. Ah non, 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 c'est pour nous que cela est écrit, car celui qui laboure doit labourer avec espérance, celui qui foule le grain doit fouler dans l'espérance d'y avoir part, etc. Puis il revient sur le même texte quelques années après en 1 Timothée 5, que les anciens qui président du Mans soient estimés d'un double honneur, c'est-à-dire qu'ils aient double salaire, hein, c'est comme ça qu'on peut le comprendre, me semble-t-il, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement, car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire », mettant sur le même plan une parole de Jésus et une parole du Deutéronome, ce qui est aussi très intéressant. Donc, ce texte-là, c'est un grand encouragement pour moi à lire ces lois, tous ces chapitres 12 à 26 du Lévitique, où on a toutes ces lois diverses civiles qui sont parfois obscures ou difficiles à comprendre, parce qu'on peut y trouver cette pensée profonde de Dieu qui est mise en évidence par Paul, ne pas priver celui qui travaille des bienfaits de son travail, même si ce n'est qu'un animal, et donc, à plus forte raison, vous voyez le raisonnement a fortiori qui est si souvent utilisé dans l'Écriture, à plus forte raison un homme ou un serviteur de Dieu. Donc comment Paul, ici, à partir d'un texte très concret, en tire un principe spirituel, un principe général, spirituel, qu'il applique à une situation différente. Et donc, c'est comme un TP, ça nous invite à faire la même chose pour d'autres textes, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Cinquième exemple, l'habillement féminin, une petite suffragette de 1916. Alors, là aussi, c'est de vieilles histoires maintenant, mais bon. Il y a un commandement sévère. La femme ne portera pas un habit d'homme et l'homme ne se vêtira pas d'un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et je dois rappeler ce texte dans un contexte historique des assemblées de frères où ce texte-là a été trop souvent cité et a causé des ravages, a détourné des jeunes filles de la foi. Il faut bien voir les conséquences que cela a pu avoir très concrètement. Parce qu'il y en a qui ont été découragés d'exigences qu'elles trouvaient légales par rapport à ce sujet, parce qu'on leur demandait de faire du ski en jupe. Donc, est-ce que herméneutiquement, c'est tenable? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas un pantalon pour une femme? Mais ce n'est pas ça le sujet. Alors, bien entendu, on va dire, mais regardez, c'est une abomination à l'Éternel. Oui, sauf que reprenez, là aussi, qu'est-ce qu'on fait? On prend le terme abomination et on regarde toutes les occurrences d'abomination dans le Deutéronome. Je ne sais plus s'il y en a 7 ou 9, mais enfin, il y en a un certain nombre. Et chaque fois, c'est en relation avec des pratiques cultuelles que Dieu dénonce et qui avaient lieu dans la Canaan de l'époque. Et donc, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Eh bien, il y avait des travestis sacrés qui étaient dans les cultes cananéens, vous savez, sous les arbres verts, là, sur les hauts lieux, et qui se déguisaient. Qui faisait des travestissements et avec des pratiques aussi d'orgies sexuelles dans le but de rites de fécondité. Et on a trouvé des statuettes avec des attributs sexuels exacerbés. Vous en avez au musée d'Israël à Jérusalem si vous voulez en voir. Donc on voit bien que l'interdiction de l'abomination, pourquoi c'était une abomination à l'Éternel? Parce que justement, comme je l'ai dit l'autre rite du chevreau dans le lait de sa mère, c'était finalement essayer par magie, par superstition, de faire en sorte qu'il y ait une bénédiction, alors que la bénédiction ne peut venir que de Dieu. Alors en pratique, néanmoins, Le principe de maintenir la différence sexuelle, y compris de manière visible dans l'habillement, c'est un principe que je trouve biblique, parce que Dieu a créé l'homme et la femme, il les créa, mâle et femelle, il les créa. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans ce sujet qui est un sujet très vaste en tant que tel, et pas si facile que ça aux marges, bien entendu, mais néanmoins, on retient ce principe-là. Mais ce principe-là ne peut pas être appuyé directement par ce texte-là. Et encore moins pour interdire, pour justifier des interdits vestimentaires de notre siècle, c'est le cas de le dire, et qui avaient plus des arrière-plans dans lesquels il faudrait sans doute creuser et qui ne sont pas si reluisants que ça. Mais bon, donc vous voyez, pratiquement maintenir le fait que quand je vois Emma, ben, je vois tout de suite que c'est une femme, quand je vois Hervé, je vois tout de suite que c'est un homme, ça c'est important. Premier coup d'œil, parce que parfois vous avez des gens, on se dit c'est un garçon, c'est une fille, bon, pas trop. Là, il y a un petit souci, mais indépendamment du pantalon, de la jupe ou quoi que ce soit, hein, voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, il est là. Et est-ce que je peux voir clairement s'il y a cette différenciation sexuelle ? Et spirituellement, maintenir la différenciation culturelle. Ben oui, c'est important qu'on voit qu'ici, c'est une église, c'est pas une mosquée. Vous voyez, parce qu'il n'y ait pas d'assimilation de culte. Vous voyez, ça peut toucher aussi, c'est principal. Voilà, alors nous arrivons à une heure de présentation, donc je m'arrête ici pour conclure sur les nouvelles lois du chrétien. Alors, on pourrait dire, oui, mais tout ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi ? C'est l'amour. On va vous dire ça, c'est l'amour. Ben oui, effectivement, c'est aimer. Sauf que le Seigneur a dit, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre, et qu'il nous dit aussi que garder ses commandements, c'est une preuve d'amour pour lui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Et l'apôtre Jean nous dit, c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alors c'est vrai qu'on peut être étonné dans le Nouveau Testament de trouver des injonctions, des impératifs, des commandements, etc. On pourrait se dire, mais c'est un retour en arrière, on revient sous la loi. Pourtant, Paul écrit dans ses parties doctrinales que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, que nous marchons par l'esprit, etc. Ben oui, mais nous avons besoin aussi d'instruction. Et je rappelle que le terme « Torah » en hébreu, signifie à la base « instruction ». Donc nous avons besoin d'être instruits. Et le chrétien, finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans un changement de loi. Et Paul, dans un texte magnifique, juste après l'histoire de nos bœufs, là, qui ne doivent pas être emmuselés, il dit « comme si j'étais sous la loi, sans être moi-même sous la loi, comme si j'étais sans loi ». Non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis légitimement soumis à Christ. Vous voyez l'équilibre et la subtilité ? Paul est très conscient qu'il n'est plus sous la loi, mais pourtant il n'est pas sans loi. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à accomplir la loi du Christ, porter les charges les uns des autres et ainsi accomplissait la loi du Christ. Et dans un magnifique oxymore, Jacques dit dans son épître, « Celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté ». Or, dans notre esprit, loi et liberté, c'est deux choses complètement opposées. Et Jacques va les réunir pour dire c'est la loi parfaite, celle de la liberté, qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur ou brigueux, mais un faiseur d'œuvre, celui-là sera bien heureux dans ce qu'il fait. Et il donne deux instructions parmi d'autres. Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père, le voici. Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se conserver pur du monde. C'est quelque part aimer son prochain et aimer Dieu. On retrouve encore les mêmes choses. Donc, le chrétien, finalement, il est dans cette nouvelle état de choses dans lequel il accomplit naturellement les instructions de la loi dans la puissance de sa vie nouvelle conduite par le Saint-Esprit. La juste exigence de la loi est accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'Esprit. De sorte que finalement, entre un chrétien sérieux et un chrétien légaliste, d'apparence, il peut y avoir quasiment aucune différence. Mais l'un le fera parce que, bien, il faut le faire, parce que sinon le bon Dieu va me punir. Alors, il ne va pas le dire comme ça, mais quelque part au fond de lui, ça sera un peu ça. Parce que si je ne fais pas ça, je ne serai pas béni, ou que si je ne ferai pas ça, Dieu m'aimera moins, etc. Et l'autre, le chrétien sérieux, il fera ça parce que je veux plaire au Seigneur à tous égards et suivre ses commandements. Voyez. Donc extérieurement, ça pourra être la même chose. Intérieurement, les ressorts seront très différents. Parce que la juste exigence de la loi est accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, aimer la loi, oui, la loi du Christ dans notre cœur, appliquée par le Saint-Esprit. Et j'aimerais terminer par ce verset de Matthieu chapitre 11, ça va vous paraître un peu curieux sans doute. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » J'ai mis en exergue ce mot de joue. Pourquoi ? Parce que peut-être ne le comprenons-nous pas toujours exactement dans ce contexte. Quand Jésus s'adresse ici, il parle à des gens qui étaient des juifs. Et le joue, pour eux, c'était la loi. C'était un terme qui était très souvent utilisé pour parler de la loi. D'ailleurs, en acte 15, il est question d'un joug que ni nous ni nos pères n'ont pu porter. Et donc là, ce que Jésus dit, c'est ce joug de la loi, eh bien, je vais le remplacer par mon joug, par la loi du Christ. La loi du Christ que je vais mettre dans vos cœurs et vous trouverez le repos de vos âmes. Et il me semble que dans notre vie chrétienne au quotidien, eh bien, c'est en apprenant de Jésus-Christ, en apprenant de lui, qu'alors nous allons accomplir la loi du Christ, qu'elle va être par son esprit dans notre cœur et que finalement nous allons trouver le repos de nos âmes. Et dans ces cas-là, nous pourrons dire oui, oh combien j'aime ta loi.
Des trois dernières strophes du 112.
Il n'y aurait pas des questions peut-être avant ?
Ah. Moi j'ai une question, mais je ne sais pas si. Elle est un peu compliquée peut-être aussi. Dieu, dans une mesure spéciale de sa grâce, tu as écrit, ou tu as dit aussi, Dieu, dans une mesure spéciale de sa grâce, a adapter ses lois à la culture de l'époque, se réservant pour plus tard dans le Nouveau Testament la pleine révélation de sa pensée. Et tu as donné des exemples, le divorce, polygamie, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que la pleine pensée de Dieu ou la pleine révélation de Dieu sur ces sujets-là se trouve dans le Nouveau Testament ?
Oui, je pense qu'elle se trouve dans le Nouveau Testament. Pour le divorce, on voit bien que Jésus, Matthieu 19, dit « Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Et il revient à Genèse 2, versets 24 et 25, pour donner le principe. Et pour le, par exemple, pour l'esclavage, nous avons en germe des éléments dans 1 Corinthiens chapitre 7, « Si tu peux être libre, surtout saisis l'occasion. » Dans l'Épître à Philémon, où Paul ne dit pas à Philémon il faut que tu affranchisses Onésime, mais il lui fait bien comprendre, reçois-le comme un frère, etc. Par rapport à la polygamie, eh bien, on voit je vous ai fiancé seul à Christ comme une vierge chaste. Le parallèle qu'il fait avec l'Église est difficile à comprendre dans un cadre de polygamie. Donc on voit bien que les choses sont données de façon très subtile. C'est pas balancé, hein, mais que en germe dans ce qui est ajouté dans le Nouveau Testament, ce qui est creusé un peu plus profond, eh bien, nous avons les principes vraiment, vraiment fondateurs qui nous permettent de revenir à ce qu'est la nature même de Dieu.
On parle quelquefois de la loi sacramentelle. Comment elle se...
Alors, ce me semble-t-il presque un synonyme de la loi cérémonielle.
C'est la loi cérémonielle.
Voilà.
Il peut être difficile parfois, en particulier dans le Nouveau Testament, il peut être difficile de Nouveau Testament de faire la part de ce qui est lié au culturel par rapport aux 20 siècles qui nous séparent. Et ça peut poser un certain nombre de difficultés, ou parfois aussi des points de vue différents. Certains restent plus dans la lettre et avec une interprétation de la lettre par rapport à d'autres qui voient les choses différemment. Donc là aussi, je pense qu'il faut être amené à se respecter parce que c'est pas simple.
Tout à fait. Et c'est là où le point de la hiérarchisation, c'est pour ça que j'ai mis d'abord contextualisation et hiérarchisation, mais les deux vont ensemble. C'est là où la hiérarchisation me semble importante. C'est-à-dire que quand nous nous trouvons dans des situations où nous nous posons la question, est-ce que c'est purement culturel de l'époque ou est-ce que c'est quelque chose que Dieu a voulu de façon indépendante de l'époque et des lieux, eh bien, les principes herméneutiques de hiérarchisation des textes de l'Écriture vont, me semble-t-il, nous aider à avancer dans le débat, pas forcément le trancher de façon convaincante pour tout le monde. Je suis bien conscient de la chose. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a souvent aidé. Et alors, on retrouve s'il y a des répétitions, s'il y a des emphases qui sont mises par le texte lui-même sur tel ou tel point, eh bien, ça va nous permettre de balancer les arguments et de voir s'il n'y en a pas qui sont d'une force peut-être un peu supérieure à d'autres. Mais ça, c'est valable pour la loi, comme tu le dis, hein, pour les textes aussi du Nouveau Testament, qui sont aussi des textes donnés en situation, à des églises particulières. Et permettez-moi quand même d'insister là-dessus, parce que j'ai été élevé dans l'idée que toute la parole est la vérité, et nous sommes bien d'accord que toute la parole est inspirée de Dieu, etc., et dans un mouvement d'église qui s'est toujours refusé à faire des confessions de foi, entre autres. Et ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients, c'est-à-dire que on en est venu à mettre sur le même plan des éléments qui, de par l'écriture elle-même, me semble-t-il, ressortent de niveaux de priorité parfois très différents. Moi, avec Anne, au début de notre mariage, nous corrigions, sondait les écritures, et j'ai parfois mis des corrections assez vigoureuses pour certaines énumérations en disant « Mais attendez, là vous êtes sur des trucs hyper fondamentaux et là au contraire sur des questions beaucoup plus de détails et beaucoup plus discutables. » Mais on ne peut pas les mettre sur le même plan parce que sinon le risque c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que dire « Vous voyez, dans votre liste le point 5 il est ridicule, mais du coup toute la liste est ridicule. » Ben non, parce que le point 2 il est au contraire fondamental. Donc c'est très important et par rapport à la loi, on peut trouver aussi des éléments d'application.
Est-ce que justement, par rapport à la loi, il y avait les 10 commandements qui étaient gravés sur une table de pierre et les autres dont on peut penser qu'ils n'y étaient pas forcément?
Tout à fait. Alors, il faut bien voir que la singularité du décalogue est soulignée par l'écriture elle-même, puisque en Exode 34 et dans deux textes du Deutéronome, chapitre 4, 24, je ne sais plus, bref, il est parlé des 10 paroles. Donc elles étaient reconnues comme telles dès le départ. Et en plus, là aussi, c'est très intéressant, si vous regardez les chapitres 12 à 26 du Deutéronome, on peut très facilement les découper en 9 sections, parce que les deux premiers commandements sont très proches, en 9 sections qui matchent dans l'ordre les 10 commandements. Et qui sont finalement une expansion, si je puis dire, des 10 commandements. Donc, dans les 613 commandements, les Juifs disaient bien qu'en fait, il y avait 10 plus 603. Donc, il y avait bien cette spécificité des 10 commandements. Néanmoins, il n'y a pas que les 10 commandements, parce que vous voyez, quand Jésus se voit poser la question « Quels sont les deux plus grands commandements de la loi ?», on pourrait se dire « Il va sortir les deux commandements du décalogue ?» Non, il sort de Deutéronome chapitre 6 et il sort Lévitique chapitre 19. Voilà. Donc, et puis on a bien vu, celui qui faillit sur un commandement, il faillit sur 12. Donc il y a à la fois cette primauté des 10 commandements, mais qui n'est pas absolue. C'est là aussi pour nuancer. passe au chant du cantique 112.
Les trois dernières fois.
Merci.
Ce jour pour le siècle en séjour forme nos cœurs, protège nos combats, ô vue conduit nos pas dans la joie ou les pleurs, rends-nous vainqueurs. Ô Dieu,
le 135.